Les Racines du Futur, une émission pour écouter les Vosges.
Donc je reçois aujourd'hui Pascal Fressoz. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors Pascal, vous êtes présidente d'une ONG qui s'appelle l'AIODD, donc l'Alliance Internationale pour les Objectifs de Développement Durable. Donc avant qu'on aille plus loin sur cette ONG, Pascal, vous êtes Beaujus.
Oui.
Vous habitez la Compote. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre parcours ?
Oui, alors comme vous l'avez dit, je suis originaire de la Compote en Beauges. J'ai fait des études de commerce, j'ai ensuite vécu en Grande-Bretagne, voilà, où j'ai travaillé en fait dans l'industrie pharmaceutique et informatique. Et j'ai ensuite repris mes études à Genève pour faire un MBA. Et en 2006, en fait, j'ai créé un cabinet de conseil en stratégie et management. Et dans le même temps, j'ai créé une ONG, cette ONG qui s'appelle l'Alliance Internationale pour les Objectifs de Développement Durable, qui auparavant s'appelait l'Alliance pour les Objectifs du Millénaire et qui visait en fait à soutenir un programme des Nations Unies dont l'objectif était la réduction de moitié de l'extrême pauvreté.
Il y a deux activités en parallèle, le cabinet qui continue toujours son
activité. Bien sûr.
Alors peut-être vous pourriez nous présenter un petit peu ce cabinet de conseil, qu'est-ce que c'est ?
Donc c'est le cabinet en fait Millennium, et donc un cabinet qui est spécialisé à la fois en planification stratégique, également en évaluation, pilotage de la performance, et également de plus en plus en démocratie participative. Puisque du coup, en tout cas, la mission première du cabinet, c'est de travailler soit avec des entreprises, des collectivités ou parfois des organisations internationales, des agences onusiennes, pour définir des stratégies. Donc, voilà, faire une sorte de diagnostic, bilan, c'est quoi la vision, c'est quoi les objectifs à moyen long terme, c'est quoi les indicateurs, les plans d'action et puis comment conduire le changement dans les organisations. Donc, il y a ce volet, en fait, planification stratégique. Et de plus en plus, Millennium travaille avec les collectivités locales, notamment la ville d'Aix-les-Bains, de Chambéry et d'Albertville, pour animer les conseils citoyens.
L'ONG a été créée par vous.
Oui.
Donc, j'imagine qu'il y a un lien direct aussi avec votre travail au sein du cabinet de conseil.
Alors, non, pas forcément, parce que... bon, alors, peut-être juste un historique sur la création, en fait, de l'ONG. C'est vrai que quand je suis rentrée d'Angleterre, je me suis beaucoup engagée pour la cause des otages en Colombie en créant un comité local Savoie-Haute-Savoie pour la libération d'Ingrid Betancourt et pour la libération des 3000 otages en Colombie. Et après, je me suis de plus en plus investie au sein de la Fédération internationale des comités Ingrid Betancourt. Et donc, je suis devenue vice-présidente en charge des relations publiques, où là, j'avais des contacts avec certains gouvernements, bien sûr français, l'ambassade de France à Genève, le Quai d'Orsay à Paris, et puis également donc le gouvernement suisse. J'ai également effectué quelques visites aux États-Unis pour justement œuvrer pour la libération des otages. Et dans ce contexte, en fait, j'ai eu pas mal de relations, en fait, avec des ONG, des organismes comme le CICR, par exemple, à Genève, ou les Nations Unies. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que je me suis rendu compte à quel point les questions de violation des droits de l'homme étaient intimement liées aux questions d'extrême pauvreté. C'est un peu, on va dire, la base de mon engagement. D'abord un engagement pour les droits de l'homme, et ensuite un engagement dans la lutte contre la pauvreté. Et puis maintenant, bien sûr, quelque chose de plus global pour soutenir ce programme des Nations Unies à travers 17 objectifs, ce qu'on appelle l'agenda 2030 des Nations Unies. Il n'y a pas de corrélation entre le cabinet et l'ONG.
D'accord. Donc c'est plutôt l'engagement militant, citoyen,
oui,
qui a généré.
C'est ça.
Et donc cette alliance, elle a été créée quand ?
Donc elle a été créée en septembre 2006 à Genève. Donc avec un groupe en fait de bénévoles, il y a beaucoup de gens qui sont basés en fait dans le bassin franco-genevois. Et donc elle avait vraiment cet objectif de se dire comment on peut renforcer des partenariats pour faire en sorte que à la fois des gouvernements, mais aussi des collectivités, des entreprises puissent mieux soutenir ce programme des Nations Unies qui s'appelait à l'époque les Objectifs du Millénaire pour le Développement et qui comprenait 8 objectifs. Donc des objectifs en lien avec les questions de, bien sûr, de nutrition, de santé, des questions de lutte contre certains enjeux environnementaux, et puis, bien sûr, dans le but de réduire l'extrême pauvreté. Alors, je fais peut-être juste une parenthèse. Maintenant, on parle beaucoup de la question des migrants et, voilà, et bien sûr, toutes les horreurs qui sont attachée à toutes ces problématiques. Et dans le même temps, on entend de plus en plus d'élus ou de personnalités, de décideurs, dire que oui, il faut davantage soutenir les pays, les gouvernements dans les pays en développement, de manière à faire en sorte que les populations puissent vivre décemment dans leur pays d'origine et éviter justement toutes ces migrations. Voilà, mais nous, du coup, ça fait vraiment depuis 2006 qu'on essaye aussi de frapper à beaucoup de portes pour dire il faut davantage soutenir les objectifs du millénaire pour le développement. Voilà, parce que typiquement, c'est ça, en fait. Voilà, ce vers quoi, en tout cas, ces objectifs tendaient, c'est de faire en sorte que ces populations puissent vivre décemment, bien sûr, dans leur pays. Donc voilà, maintenant, je pense qu'on en parle un peu par réaction. Mmh. Voilà, il y aurait peut-être eu davantage d'actions qui auraient pu être engagées aussi par les pays du Nord, bien sûr, pour soutenir davantage les pays du Sud, mais aussi par les pays du Sud, en ayant une meilleure gouvernance pour mieux soutenir les populations dans leur pays et engager aussi davantage d'actions économiques pertinentes pour développer le tissu économique. Mmh. Dans ces régions et faire en sorte que les gens puissent accéder à un emploi et vivre décemment.
Parce qu'effectivement, c'est ça l'intérêt des 17 objectifs de développement durable, en tout cas qui ont été développés par l'ONU, c'est une universalité. C'est prendre en compte le contexte de chaque pays, mais du coup, en même temps, les besoins et les objectifs sont, entre guillemets, les mêmes, dans le sens où l'idée, c'est que chacun puisse vivre décemment, de manière égale et dans le respect.
C'est exactement ça. C'est que, autant pour les objectifs du millénaire, il y avait une dimension, on va dire, plus développement des pays du Sud, autant maintenant, ces fameux 17 objectifs de développement durable sont universels, ils concernent autant les pays du Nord que du Sud, comme vous le dites. Peut-être juste pour repréciser, en fait, ils sont articulés autour de ce qu'on appelle les 5 P. Mmh. Donc, bon, c'est en anglais, mais il y a le premier P pour people, donc c'est toutes les questions qui sont en lien aux questions de nutrition, d'éducation, de santé, réduire les inégalités. Il y a un P qui est lié à la question de prospérité, donc prospérité économique, développer davantage l'innovation et faire en sorte que les gens puissent avoir accès à un emploi décent. Et ça, c'est vraiment important que non seulement les gens travaillent, mais puissent véritablement vivre décemment de leurs revenus. Et je pense que c'est une des problématiques qu'on retrouve bien évidemment en France et dans d'autres pays du Nord, parce que malheureusement, on l'a vu aussi avec la crise des Gilets jaunes, beaucoup de gens ont un emploi, mais n'arrivent pas à vivre de leur emploi. Hein, et donc, ça devient vraiment une vraie problématique sociale qui devient aussi sociétale. Et puis, il y a le P pour la partie, en fait, planète. Donc, il y a 6 objectifs qui sont en lien avec les questions environnementales. Bien évidemment, le traitement de la problématique de l'eau, de l'énergie, le fait de pouvoir encourager une production et une consommation durable. Et puis, bien évidemment, il y a la préservation, la biodiversité marine et terrestre. Et puis, il y a un P pour peace. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau, parce que dans les objectifs du millénaire, il n'y avait pas la question du respect des droits de l'homme et de la paix. Donc, je sais que ça a été, en tout cas, intégré après de âpres négociations avec certains pays. Mais voilà, on sait que s'il n'y a pas de respect des droits de l'homme d'une manière générale et qu'il y a des injustices et qu'il n'y a pas de réparation, évidemment, c'est quelque chose qui va maintenir des conflits et qui ne pourra pas tendre vers la paix et la prospérité. Et puis, il y a ce fameux P, c'est l'objectif numéro 17, qui s'appelle partenariat, faire en sorte que du coup, les objectifs de développement durable, ce qu'on appelle l'agenda 2030, ce ne soit pas uniquement l'agenda des Nations Unies, mais véritablement les ODD pour tous, et faire en sorte que les gouvernements, les entreprises et les collectivités puissent contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Et je remercie au passage Radio Alto, parce que le fait de parler des objectifs de développement durable, c'est aussi ce qui contribue à les faire connaître. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont trop peu connus et par conséquent, il y a trop peu d'acteurs qui les intègrent véritablement dans leur plan ou dans leur stratégie. Et donc, les médias ont vraiment un rôle très important à jouer pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse vulgariser davantage ces objectifs de développement durable.
J'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve. J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo. Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo. C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée. Je vis loin du feutré et des lumières tamisées. Dans tes ruelles cruelles, ou tes boulevards affliques. Dans la musique truelle, des silences cacophoniques. Paris, ma belle beauté, tes prétendants se bousculent. Dans le brouillard épais de tes fines particules, moi. Pour te mériter, je t'écrirai des poèmes que je chanterai la nuit tombée debout sur la scène. Paris s'éveille sous un ciel océanique. L'accent titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton. À gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème, Paris médèque, Paris d'encre et d'exil. Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville. Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier. Je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais. Il tourne le gyrophare, petit cheval de carrousel. Galope après les tirailleurs qui rétrécissent la tour Eiffel. D'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer. Je t'écris des poèmes où des fois je veux me noyer. De liberté pour les différents hommes, des valises d'exilés, des juifs errants et des roms, ou mémoires de pogroms, ou grimoires raturés, des chemins, des révanes, aux sentiers de Crimée, caravane d'apatride, beau people, caravelle, sur tes frontons, Paris vient lire l'universel, et souvent je t'en veux, dédaigneuse et hautaine, capitale de la monde, à jouer la mondaine, laisse-nous consteller la vraie nuit que tu ignores, cesse donc de faire briller les mille feux de ton décor. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint, on n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint, on n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime, quand la lumière s'éteint, on n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un.
Peut-être avant d'expliquer comment les collectivités, les citoyens peuvent s'en emparer, on parle d'un agenda 2030. Peut-être est-ce que vous pourriez repréciser ce que c'est? C'est 2030, c'est quoi? C'est une échéance?
Voilà, alors en fait, donc ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau des Nations Unies, il y a eu 2 années de négociations et de concertations. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été engagées pour demander aux gens qu'est-ce qui était important pour eux. Et c'est comme ça, en fait, que les objectifs de développement durable ont été définis. C'est à la fois par le travail des experts et par le travail aussi de concertation avec les populations. Bien sûr, tout le monde n'a pas été concerté, mais il y a eu à peu près, je crois, 2000 contributions en tout cas. Et donc, ces 17 objectifs ont été adoptés par l'ensemble des États membres, 193 États membres, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre 2015.
D'accord.
Donc ça, c'est vraiment le préambule de base, c'est d'œuvrer davantage pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs et de certaines valeurs, bien sûr, dans la perspective de réduire les inégalités et de pouvoir faire en sorte qu'on puisse tendre vers le bien-être pour tous. Donc en gros, tous les États se sont engagés pour les atteindre. Dans le cadre de notre colloque du 4 juin, on en reparlera tout à l'heure, il y a certaines personnalités comme Dominique Bourg, par exemple, qui disait « pas sûr qu'aujourd'hui, ces objectifs puissent être adoptés par l'ensemble des États membres hein, ». Puisque on peut sentir peut-être une sorte d'affaissement moral, en tout cas, vis-à-vis d'une certaine tranche, ou en tout cas, certaines personnes qui refusent de voir certaines réalités, ou peut-être voilà, qui ont eu des réactions assez surprenantes sur un plan humain ou humaniste. Donc, en gros, ils ont été adoptés et donc, par conséquent, maintenant, les États se doivent de les mettre en œuvre, même s'il y a eu un changement de gouvernement dans certains pays. Ce qui est important, c'est que donc ces objectifs sont précis, ils sont mesurables, ils sont quantifiables et ils doivent être atteints en prenant aussi en compte eh bien, toutes les forces vives d'un territoire. Donc, il y a 169 cibles précises qui ont été définies. Donc, des acteurs comme, par exemple, des collectivités locales qui souhaiteraient intégrer ou mieux intégrer ces objectifs de développement durable, eh bien, quand elles font le diagnostic, qu'est-ce qui a marché dans ma commune, qu'est-ce qui n'a pas marché, une sorte de bilan, en fait, elles peuvent aussi faire le bilan ou le diagnostic sous le prisme des 17 ODD. Donc, elles peuvent, par exemple, reprendre chacun des objectifs, voir aussi quels sont les indicateurs rattachés à ces objectifs. Et c'est quelque chose qu'on trouve facilement sur la page du PNUD. En se disant, tel et tel indicateur, est-ce qu'il nous concerne, oui ou non, hein. Elles ne sont pas obligées, bien évidemment, d'intégrer tous les indicateurs. Il y en a qui sont peut-être plus rattachés à des conditions de développement plus difficiles, comme dans les pays en développement dans le Sud. Mais, en tout cas, elles peuvent s'évaluer, s'auto-évaluer sous le prisme des ODD pour ensuite définir une stratégie et des programmes. Hein. Voilà, il va y avoir les élections prochainement. Eh bien, que les futurs élus ou que les élus qui souhaitent renouveler leur mandat, eh bien, puissent se dire c'est quoi mon diagnostic, comment je mesure ma capacité aussi à atteindre ces 17 objectifs de développement durable. Et donc, sur cette base-là, quand elles définissent leur programme, eh bien, il faut qu'elles se fixent des objectifs qui soient aussi en corrélation avec ces objectifs et qu'elles puissent, du coup, les intégrer dans leur programme et dans leur plan d'action. Je vais vous donner un exemple. Il y a un département vraiment qui est tout à fait exemplaire par rapport aux objectifs de développement durable, c'est la Gironde. Mmh. Et eux, déjà, avaient mis en place un agenda 21. Et donc, quand il y a eu le passage aux ODD, ils se sont dit, maintenant, on va faire l'agenda, en fait, 2030, qui soit vraiment en lien avec le nouveau programme des Nations Unies. Et ils ont fait une sorte de diagnostic, de questionnaire vis-à-vis de la population par rapport à leurs attentes et par rapport à la manière dont les gens vivent. Mmh. Donc, il y a vraiment eu un travail, on va dire, approfondi qui a été réalisé. Donc, ils ont fait un questionnaire, ils ont posé des questions. Voilà, ils ont été dans la rue, ils ont posé des questions. Ils se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, contrairement à ce qu'ils pensaient, qui n'avaient qu'un repas par jour. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est important. Ça veut dire qu'après, ils ont mis en place un plan nutrition. Voilà, il y en a par exemple qui vont dire oui, c'est pas notre affaire de mettre en place un plan nutrition, mais n'empêche que eux l'ont fait parce que les besoins étaient beaucoup plus criants que ce qu'on pouvait imaginer. Donc c'est vrai que il y a aussi des choses qui sont difficiles à vivre et les gens ont pas envie non plus de raconter sur tous les toits leurs difficultés quand on n'a pas d'argent, quand on a vraiment des difficultés pour avoir un accès à la nourriture. Évidemment que c'est des choses qui sont un peu taboues et cachées. Et on n'en parle pas non plus dans un conseil municipal, hein, généralement. Donc, c'est souvent l'affaire du CCAS qui traite des questions sociales et les autres élus ne sont pas forcément au courant des problématiques sociales des gens. Vous voyez, donc du coup, c'est pour ça que il y a des acteurs qui jouent vraiment un rôle important, comme Julie Chabot, qui est intervenue dans notre colloque à l'ONU et qui nous a montré aussi comment en Gironde ils essayent d'engager véritablement une dynamique avec l'ensemble des acteurs du territoire en disant il faut occulter aucun objectif, parce que ça peut être facile de dire nous on va traiter l'objectif numéro 1 et l'objectif numéro 6, 7, 12 et 13. Et on considère que les autres objectifs ne nous concernent pas. C'est vraiment cette approche globale intégrée qui est intéressante parce que véritablement, elle permet d'avoir un véritable impact sur la vie des gens en toute lucidité.
Et comment, en fait, les collectivités qui veulent s'engager dans un agenda 2030 peuvent être accompagnés ou comment ils peuvent... Est-ce qu'il y a des outils en fait qui sont mis à leur disposition? Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est prévu? Parce que j'imagine qu'entre le projet et la mise en application, c'est pas toujours évident, surtout sur des petites communes, de s'emparer de ces sujets, de se dire ok, on fait un diagnostic, mais comment on fait en fait, d'une certaine façon?
Bien sûr. Alors du coup, il y a plusieurs choses. C'est que si une collectivité souhaite être un peu aiguillée et guidée sur comment aborder la question, évidemment, elle peut nous contacter à IODD. Et je peux aussi redonner mes coordonnées. Mais du coup, d'une manière générale, nous, on est clair aussi parce qu'on fait des formations sur les ODD et on apporte évidemment des outils, des éléments pour appréhender la question. Il y a certaines collectivités qui effectivement prennent un cabinet, par exemple. Ça peut être aussi une possibilité pour pouvoir être accompagné. De la même manière qu'une collectivité, par exemple, va prendre un cabinet pour pouvoir être accompagné dans le cadre de son PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, ou son PADD, elle va prendre un prestataire extérieur. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Il y a des collectivités qui l'ont fait et pour lesquels c'est vraiment très, très bien passé. Il y a de nombreux outils qui sont à disposition et qui ont été développés assez récemment. Ce qui s'est passé, c'est que il y a à peu près 2 ans, il y avait vraiment très, très peu d'outils. Et on s'est rendu compte qu'en 2 ans, le nombre d'outils qui ont été développés est absolument incroyable. Donc, il y a des outils qui sont disponibles à travers plusieurs sites. Il y a une plateforme qui s'appelle Les ODD et Nous, par exemple. Au niveau du ministère de l'écologie, et la transition, de la transition écologique et solidaire, il y a aussi une boîte à outils qui a été développée, qui centralise des outils. Si vous allez sur le site du conseil départemental de la Gironde, vous allez aussi trouver une dizaine ou une douzaine d'outils. Mais ce qui manque aujourd'hui, et je pense que au niveau du ministère de la transition écologique, ils en sont aussi conscients, c'est qu'il manque un outil standardisé, très facile d'utilisation, voilà, qui puisse être utilisé dans des petites collectivités. Et il manque aussi un outil qui puisse être utilisé dans les entreprises. Donc, il y a un travail actuellement qui se fait sur ces questions-là, en fait. Quelques outils clés en main, très faciles d'utilisation.
Et là, le rôle ou les actions de l'AIODD, comment ça s'inscrit dans ces projets ?
Alors, au niveau de l'AIODD, on travaille principalement sur trois axes. Il y a à la fois le volet sensibilisation, le volet formation, et puis il y a aussi parfois un accompagnement sur des projets concrets de terrain. Donc simplement peut-être pour vous rappeler, l'Alliance a organisé à peu près 1200, on va dire, réunions publiques et conférences, c'est-à-dire des actions de promotion par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement et par rapport aux ODD. Hein, donc voilà, ça peut être des réunions qui soient organisées en petit comité avec 40-50 personnes, ou alors ça peut être des plus grosses conférences. Donc ce que je vous dis là, c'est dans tous les pays où nous sommes présents, puisqu'aujourd'hui on est présent dans 13 pays. Donc il y a cette partie promotion et dans le même temps aussi sensibilisation et coopération avec les gouvernements. Parce que ce qui est important aussi, c'est parfois de rappeler certains gouvernements à leurs obligations, parce que les objectifs du développement durable ne sont pas forcément très connus, ou alors parfois... au sein des gouvernements, il n'y a pas forcément une approche interministérielle. Hein, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que ce ne soit pas uniquement le ministère de l'écologie qui intègre les ODD, mais c'est chacun des ministères qui doit s'en emparer, que ce soit au niveau de la santé, évidemment, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau des transports. Voilà, chacun a vraiment sa responsabilité. Et ce qui est encore plus important, c'est que quand il y a une politique qui est mise en place, on se dit pas simplement j'ai contribué à l'ODD numéro 3, par exemple, dans le domaine de la santé, mais par contre, qu'on se dise cette action, elle a un impact sur quel autre ODD. Donc, une action qui peut être organisée dans le domaine de l'éducation, eh bien, elle a quoi comme impact, en fait, sur les questions environnementales? Elle a quoi comme impact en termes de réduction des inégalités, au niveau de la faim, etc. Hein, donc, c'est cette approche transversale et pas juste je contribue à tel ODD.
Oui, en tout cas, il y a cette notion qui est très importante que tout est en lien. En fait, effectivement, l'idée, c'est d'aller vers un nouveau paradigme. Donc, effectivement, c'est pas changer juste un aspect de la société ou de, mais c'est une vision globale et que chaque chose a un impact sur une autre.
C'est exactement ça. Voilà, c'est les interdépendances et les interconnexions. Parce que sinon, on va continuer à avoir des objectifs contradictoires. Et dans tous les cas, enfin, voilà. À la fois des objectifs contradictoires, à la fois des citoyens qui, certains voudront une chose et d'autres voudront une autre chose. Et donc, voilà, on l'a aussi vu dans le cadre du grand débat. On a vu parfois que les attentes des citoyens sont fondamentalement différentes. Oui. D'où l'objectif, à un moment donné, de se dire, on tend vers des objectifs communs. Et c'est aussi ça qui va faciliter les prises de décision. Et si les gens adhèrent à un projet global avec une vision à moyen long terme, pour eux, ce sera beaucoup plus compréhensible le fait qu'on puisse engager telle ou telle initiative. Donc c'est ça aussi, le fait de donner du sens, que les gens comprennent l'utilité de, et que par conséquent, ils voient quelles sont les actions spécifiques qui sont rattachées pour pouvoir contribuer à l'atteinte d'une vision, en fait, d'une vision globale.
D'où l'importance, effectivement, de sensibiliser, de faire connaître ces objectifs de développement durable auprès et des collectivités, mais de tous les citoyens, effectivement, que chacun puisse s'en emparer, puisque c'est une question qui, enfin, c'est des questions qui touchent tout un chacun.
Absolument, tout à fait.
Et donc, là, le volet suivant, c'est la formation.
Alors, du coup, on a ce volet, effectivement, formation. Les formations peuvent être assez différentes aussi selon les pays. Donc, bon, en France, on fait des formations. Là, je vais intervenir prochainement au pôle d'enseignement supérieur Unilassalle dans les Hauts-de-France. J'interviens beaucoup, par ailleurs, dans le cadre de mon cabinet, dans les écoles d'ingénieurs ou écoles de management. Et là, effectivement, je parle toujours des ODD. Donc, effectivement, là, parfois, il peut y avoir quelques convergences. Et puis, on va aussi continuer à intervenir. Il va y avoir une pièce de théâtre qui va être mise en place justement suite au colloque du 4 juin à l'ONU par des étudiants qui ont trouvé que c'était absolument extraordinaire de pouvoir mieux comprendre voilà, et avoir cette approche globale des choses et qui vont mettre en place une pièce de théâtre parce que c'est aussi à travers l'art et la culture et bien qu'on peut faire comprendre un certain nombre de choses. Il faut quand même bien dire que le développement durable, c'est quand même quelque chose de très complexe. Mmh. Je trouve qu'on ne passe pas assez de temps non plus à l'expliquer et que pour beaucoup de gens, ça reste trop lié au tri de déchets ou aux énergies, alors que c'est beaucoup plus vaste que ça. Et par ailleurs, je trouve que ceux qui essayent de défendre le développement durable, parfois ils sont un peu targués comme étant des militants écolos. Alors évidemment, ce n'est pas du tout péjoratif de dire ça, mais n'empêche que du coup, ils sont plus crédibles. Donc ça, à mon avis, il faut que ça change aussi. Parce que parler de développement durable, c'est vraiment parler de l'avenir et c'est pas être bloqué sur des positions, c'est pas uniquement vouloir faire en sorte qu'on puisse faire passer des grenouilles sur une autoroute. Enfin voilà, il y a aussi des clichés qui sont associés à l'acte militant écolo, qui sont pas très bien vus non plus dans la société. Donc faut vraiment essayer de tendre vers une meilleure compréhension de qu'est-ce que c'est ce fameux développement durable, en essayant aussi de mieux prendre en compte eh bien, l'importance des équilibres entre les dimensions sociales, économiques et environnementales. Il ne faut pas juste agir pour l'écologie ou juste agir pour le social.
Non, les deux sont en lien.
Voilà, les trois sont vraiment intimement liés. Et c'est ça aussi, cet équilibre-là qui doit être davantage discuté, en tout cas au sein des collectivités, pour faire en sorte, ou au niveau des élus, au niveau des gouvernements, pour faire en sorte qu'on puisse trouver ce subtil équilibre. C'est ça, en fait. On recherche actuellement un nouveau modèle durable de développement. Eh bien, c'est dans la recherche de certains équilibres qui sont évidemment pas faciles à trouver, mais c'est vraiment... C'est ce vers quoi il faut absolument tendre. Parce que sinon, quand on appuie sur le bouton de l'écologie, eh bien, à ce moment-là, c'est le social qui va plus. Parce qu'on va dire, mais pourquoi on nous met des taxes sur tel ou tel produit alors qu'on n'arrive déjà pas à finir les fins de mois? Donc vraiment, l'approche intégrée, elle est indispensable.
Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent. Ils rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. Quand retombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la Terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
C'est pour ça aussi que des mouvements comme les mouvements des villes ou des territoires en transition abordent justement tout cet ensemble de thématiques. C'est de la transition écologique, mais c'est de la transition humaine, c'est de la transition dans le travail, dans la gouvernance aussi dont vous parliez tout à l'heure.
Exactement. Donc c'est ça aussi qu'il faut saluer, Bérangère, c'est le fait qu'il y a déjà un certain nombre d'actions, d'initiatives qui sont engagées par des collectivités locales, par des associations. Il y a beaucoup, beaucoup de choses déjà extraordinaires qui se font. Hein, et il faut vraiment saluer toutes ces initiatives exemplaires, faire en sorte qu'elles soient mieux connues, qu'elles soient davantage centralisées, en tout cas, pour que les gens qui ont envie de développer ces approches puissent gagner du temps, parce que leurs pairs ont déjà passé beaucoup de temps, en tout cas, pour le montage de certains dossiers et pour certaines expérimentations. Donc, les bonnes pratiques peuvent faire gagner du temps et permettre de démultiplier certaines expérimentations positives.
Il y a nécessité à faire du maillage, en fait, entre ces initiatives, entre ces actions, pour justement le fait qu'il y ait de la transmission qui se fasse aussi,
bien
comme
sûr.
Vous dites, au niveau, effectivement, que ce soit des montages de dossiers, du partage d'expériences.
Ouais. Oui.
Et ça, c'est quelque chose auquel vous travaillez aussi, sur du maillage, ou ça reste plus complexe peut-être à mettre en place?
Alors nous, en fait, bon, on participe à certaines activités, on est membre de certains réseaux, en fait, donc à ce titre, on y participe. Comme par exemple, bon, on avait participé, il y avait une conférence sur le bien-être, en fait, qui a été organisée à Grenoble en juin l'année passée. Et là, il y avait vraiment un très, très grand nombre d'acteurs qui engagent vraiment ce genre d'initiative. Et qui était présent. Donc, par exemple, on s'était beaucoup posé la question de, pour vous, en tant qu'habitant, c'est quoi le bien-être? De manière aussi à faire le lien entre c'est quoi le bien-être pour des habitants et pouvoir effectivement faire la connexion avec les objectifs de développement durable. Il y avait aussi des gens qui travaillent au Bhoutan qui nous ont aussi dit, pour nous, le bonheur intérieur brut, on le définit comme ça, et comment nous, on le rattache aux objectifs de développement durable. Et donc, on travaillait avec les acteurs de Grenoble, notamment Hélène Clos, qui ont engagé aussi des démarches vraiment remarquables pour voir comment ils pouvaient mettre en place, en fait, des indicateurs globaux sur un territoire et comment, du coup, on pouvait mesurer la capacité de chacun des départements à contribuer à cet objectif global à travers un indice, en fait. Donc voilà, le maillage, il se fait à travers certaines initiatives. Ce qui est un petit peu plus difficile, c'est de maintenir des dynamiques avec tous les réseaux en même temps.
Ouais.
Parce que du coup, ça prend beaucoup de temps. Nous, on avait aussi j'ai créé une coalition, un groupement d'ONG en 2010. Je l'ai cofondé avec une autre personne qui s'appelle Awendiaye de Espace Afrique International. Et là, du coup, nous, on avait créé en fait la coalition des ONG pour les objectifs du millénaire pour le développement, puis pour les objectifs de développement durable, où là, pendant 6 ans, on a co-présidé en fait cette coalition d'ONG pour justement créer ce maillage et davantage de synergie et de connexion entre les ONG. Enfin, les synergies en tout cas étaient vraiment localisées sur le bassin franco-genevois, mais avec des ONG locales ou internationales. Et là, par exemple, au Maroc, on va créer une coalition d'ONG, où là, effectivement, toutes les ONG qui travaillent pour les ODD, les objectifs de développement durable, puissent être réunies au sein d'une même entité et voir comment les unes et les autres peuvent potentiellement s'enrichir mutuellement et faire en sorte qu'il y ait un effet de masse qui soit plus important sur les ODD.
Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté aussi, hein, peut-être mettre en lien entre les initiatives très très locales et voilà, les initiatives peut-être dont vous parlez qui sont à une échelle plus internationale. C'est vrai qu'on des fois, on peut avoir du mal à faire le lien, même nous, en tant que citoyens, de comment je me retrouve entre le très local et le global, en fait.
Oui.
Alors que les objectifs sont les mêmes.
Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, bon, nous, comme je l'ai dit, on travaille avec plusieurs pays. Je peux peut-être juste citer les pays rapidement. Alors évidemment, le siège, il est en Suisse. Beaucoup de gens, d'ailleurs, croient que je suis suisse quand j'interviens à l'étranger. Ce qu'il y a, c'est que donc on a ces antennes. On a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, République démocratique du Congo, Burkina Faso. On est présent au Niger également, Tunisie, Maroc, en Inde, Madagascar. On a une nouvelle antenne qui vient de se développer au Cameroun. Et puis, on en a plusieurs qui vont se développer prochainement. Donc là, on travaille avec le Canada et puis peut-être le Liban et les États-Unis. Donc moi, je suis présidente au niveau international. Et dans le même temps, on attache beaucoup d'importance à cette présence locale. Comme par exemple, je suis intervenue dans le cadre de la conférence qui s'appelle Genève 2050, où là, effectivement, il y a cette volonté, en fait, de faire en sorte que dans l'économie, on intègre davantage le développement durable. Pour eux, c'était aussi important que l'Alliance soit présente, parce que du coup, ça montre aussi les dynamiques qu'on peut engager localement. Mmh. Et je signale au passage quand même que le canton de Genève et la ville de Genève sont vraiment remarquables dans ce sens, parce que depuis l'an 2000, eh bien, ils ont vraiment pris à bras-le-corps la question du développement durable. Ils ont organisé des séances d'information avec les entreprises. Ils ont créé un nombre d'outils très, très importants, des sortes de catalogues, de fiches actions pour montrer aux entreprises comment intégrer le développement durable. C'est ça aussi une forme d'exemplarité. Et maintenant, ils doivent faire plus pour les ODD. Hein, donc, ils sont bien conscients de ça. Et ça explique aussi pourquoi, sur un territoire comme Genève, il y a eu une réduction de 20% des gaz à effet de serre parce que les acteurs se sont davantage peut-être emparés de la question du développement durable, les acteurs économiques. Donc même s'il y a eu une augmentation de l'activité économique, dans le même temps, ils ont quand même réussi à maîtriser les émissions de gaz à effet de serre.
Et ce qui est intéressant, en fait, c'est aussi de se rendre compte que finalement, des choses qu'on peut mettre en place au niveau local, on va se dire oui, ça marche parce qu'on est au niveau local ou on est peu nombreux. Finalement, ça fonctionne aussi à un nombre plus important de personnes. Je prends par exemple la gouvernance partagée qu'on essaye de mettre en place avec peut-être des décisions plus collégiales, des fonctionnements plus collégiaux. On se dit ça fonctionne parce qu'on est en association, parce qu'on est en petit groupe. Et finalement, il y a de plus en plus d'exemples aussi qui nous montrent que ce soit sur des communes, mais finalement, dans ce que vous dites, là, c'est sur un canton, on arrive aussi à fonctionner différemment et ça, c'est intéressant.
Je salue au passage les initiatives qui sont engagées en Bauge, parce que c'est vrai que j'ai été élue dans les Aravis et j'entendais souvent parler des Bauges. Alors forcément, ça me faisait très plaisir, vous imaginez. Voilà, mais comme par exemple ce que vous avez mis en place au niveau de BioBauge, voilà, qui est tout à fait exemplaire par rapport au mode de consommation de production et par rapport au mode de gestion et de gouvernance. Donc ça, c'est excellent. C'est à valoriser. Et effectivement, c'est qu'à une certaine échelle, il faut qu'au niveau d'un territoire, ce soit quand même un territoire assez restreint pour que ce soit possible et que les gens puissent faire le déplacement pour participer aux réunions, etc. Donc la dimension locale, le microcosme local, il est vraiment important pour pouvoir concrétiser véritablement des choses. Il y a deux initiatives que j'aimerais aussi mentionner. C'est que, comme par exemple, on a organisé avec IEDD France, on a organisé une conférence à l'IAE, donc c'est l'Université Savoie-Mont-Blanc, sur le thème économie et durabilité, où là, effectivement, on a fait la promotion auprès des étudiants des ODD. J'interviens dans ces modules aussi à l'IAE, donc ça, je le fais depuis très longtemps. Mais n'empêche que c'était vraiment très, très intéressant. Les étudiants étaient vraiment passionnés. C'est ça aussi, c'est que les jeunes ont besoin de sens dans leurs activités professionnelles futures. Et ce genre de choses leur parlent. Donc, ça, c'était aussi une action locale récente, très intéressante. On fait partie, par ailleurs, d'un collectif, en fait, qui est basé à Évian et qui s'appelle Concours de plaidoirie pour le Léman. En gros, donc, c'est une action qui va être organisée pour faire en sorte qu'on puisse valoriser la préservation de l'environnement, mais à travers la question de l'eau et des lacs. Donc, ça nous permet aussi d'avoir des actions, des collaborations avec les élus sur ce territoire-là. Et on va mettre en exergue les talents des étudiants pour pouvoir démontrer comment, à travers la loi, on peut justifier de vouloir protéger l'environnement ou de ne pas vouloir le protéger. Donc, c'est un exercice de style assez intéressant. Et puis, il y a aussi des actions qui ont été engagées par IEDD France avec son siège qui était à l'Échrenne, en fait. Hein. Donc, pendant plusieurs années, AIODD a opéré au niveau local dans le massif des Vosges avec Anne Gagneur qui a présidé en fait l'association. Et puis le docteur Valentin Travers, Jean-Marie Gagneur s'est aussi beaucoup investi avec d'autres bénévoles. Et il y a eu beaucoup d'actions qui étaient organisées pour pouvoir récolter des fonds et pour pouvoir soutenir une clinique à la frontière birmano-thaïlandaise.
D'accord.
Donc la clinique Mao Tse. Donc là, c'était vraiment des actions locales pour sensibiliser, du coup, c'était aux objectifs du millénaire, et notamment à une situation très particulière dans un pays où, voilà, on sait que certains droits sont bafoués, dans la perspective, bien évidemment, de pouvoir apporter des soins à toute une communauté, en fait, qui s'était réfugiée à la frontière birmano-thaïlandaise. Donc ces actions... qu'on peut considérer comme étant des actions de solidarité internationale, sont vraiment très, très importantes aussi. Et récemment, AIODD a envoyé une somme d'argent à cette clinique hein, pour la troisième fois. Voilà, c'est des actions qui se sont maintenues, en fait, dans la durée sur plusieurs années. Et le nouveau siège de AIODD France, maintenant, est basé à Plaisir, près de Paris.
Donc oui, vous faites vous vraiment le lien entre du local ici sur les territoires proches du siège de l'Alliance et avec des actions qui sont dans d'autres pays avec lesquels vous travaillez. Mais du coup, vous faites le lien dans le sens vraiment où c'est en corrélation, où c'est les mêmes objectifs effectivement qui s'appliquent après différemment.
Du coup, en fait, AIODD a soutenu un certain nombre de projets très concrets sur le terrain. Donc, il y a à peu près une cinquantaine d'actions qui ont été réalisées, notamment par les antennes dans les pays dans lesquels on était implantés. On a mis en place, par exemple, ce qu'on appelle des villages du millénaire. Les villages du millénaire AIODD. Donc, en quelques mots, ce qui s'est passé, c'est que c'était impulsé en fait en Côte d'Ivoire. Donc, la présidente d'AIODD Côte d'Ivoire allait rencontrer les maires. Et les chefs de village, et leur disaient « Est-ce que vous connaissez les objectifs du millénaire ?» Et bien souvent, ils disaient non. Et donc, on leur disait « Est-ce que vous êtes d'accord si on en parle à vos citoyens ?» Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, on allait dans les villages, on installait une table, et puis, du coup, on s'adressait directement à la population, sachant qu'en Afrique, il y a aussi un côté assez protocolaire. On ne s'imagine pas ici, mais il y a toujours le chef du village. Voilà, les prises de parole se font vraiment dans un certain ordre. Voilà, c'est vraiment très hiérarchisé aussi. Du coup, on venait aussi avec un cadre, une personne qui était considérée comme étant une personne qui a réussi parce qu'elle travaille en ville. Donc un cadre du village et un parrain.
D'accord.
Et dans ce contexte-là, du coup, on expliquait aux habitants qu'est-ce que c'est les objectifs du millénaire. Et on va le faire, bien sûr, pour les objectifs de développement durable. Et après, en fait, on engageait en fait les habitants en disant, eh bien, maintenant, qui serait intéressé pour créer une cellule focale ? Donc, parmi la population, il y avait entre 8 et 10 personnes qui, effectivement, se proposaient pour faire partie d'une cellule focale. Et ce groupe d'habitants, eh bien, se réunissait en se disant, c'est quoi le projet de mon village ? Donc, ils réfléchissaient à un projet global sous le prisme des objectifs du millénaire, de manière à faire en sorte que, du coup, ils puissent avoir une approche plus globale de ce qu'ils veulent pour leur village. Donc, ça changeait aussi considérablement l'approche, parce que souvent, nous, quand on arrivait dans les villages, on nous demandait des sous. Oui, on a des sous pour, on a besoin de sous pour rénover l'école, par exemple. Voilà. Et nous, on leur disait, mais nous, notre objectif, c'est pas de vous soutenir précisément pour une action, mais c'est de vous aider à avoir une approche beaucoup plus globale et intégrée sur un projet de village. Et en fait, dans ce contexte-là, il s'est passé vraiment des choses extraordinaires. Et donc, on a eu à peu près une dizaine de villages du millénaire qui ont été mis en place, principalement en Côte d'Ivoire, au Niger et en Inde. Du coup, les gens retravaillaient sur ce projet de village. Ça a aussi contribué à trouver des financeurs localement, comme par exemple sur un des villages du millénaire Airi Makougué au nord d'Abidjan. On a un cadre de la Banque mondiale qui a mis de l'argent. Voilà. Et donc pour chacun ensuite des projets qui émanaient de cette réflexion, eh bien on essayait de trouver des partenaires. Parfois ça pouvait être des entreprises, parfois ça pouvait être voilà, des gouvernements, ou ça pouvait être d'autres ONG quand c'était par exemple dans le cadre d'une campagne dans le domaine de la santé, campagne de vaccination, quand c'était, par exemple, dans le cadre de la distribution de kits scolaires pour permettre aux enfants d'accéder à l'école. Donc, il y a eu vraiment des choses assez incroyables qui sont développées dans ce contexte-là. Réhabilitation de pistes forestières, mise en place d'une filière, en fait, d'un point de vue économique par rapport à tel ou tel produit, création d'une maternité, rénovation de l'école. Mmh. Voilà. Mais c'était intégré dans un projet global. Donc, il y a eu ce genre d'initiatives qui ont vraiment permis à la fois d'avoir un dialogue avec les populations et d'avoir des réalisations probantes. Et dans le même temps aussi, de découvrir certaines problématiques et de parler de certains tabous. Comme par exemple, en Côte d'Ivoire, une des problématiques qu'on retrouvait quand même assez fréquemment, c'est qu'il y a certains enfants qui n'avaient pas de certificat de naissance. Mmh. Parce qu'il faut payer pour le certificat de naissance. Et du coup, le fait de ne pas pouvoir payer ce certificat fait qu'après, c'était beaucoup plus difficile pour l'enfant d'accéder à l'école. Il y a aussi des tabous. Certains chefs du village ne voulaient pas admettre que la population n'avait pas accès à plusieurs repas par jour. Voilà, ils disaient non, mais ici, tout va bien.
Ouais.
Et puis, quand on fait un bilan, quand on fait une évaluation et qu'on demande à tout le monde ce qu'ils en pensent, ben, on se rend compte que finalement, l'enfant, il a mangé de la banane écrasée pour son repas du midi. Voilà, donc c'est vraiment loin d'être suffisant. On a beaucoup aussi parlé des tabous en lien avec la position des filles dans la famille. Voilà, et du coup, moi, c'est un peu mon rôle aussi quand je vais là-bas, c'est de parler des tabous. Comme par exemple, dans certains cas, il y en a qui disaient « Oui, mais de toute façon, on sait que la fille, après, elle va se marier, donc ça ne sert à rien qu'elle fasse des études. » Ou alors, on va financer l'école pour les premiers enfants et puis les derniers, eh ben, on n'aura pas les sous. Donc, ouais. Voilà, donc c'est important de discuter aussi. L'autocritique des uns et des autres fait que ça fait aussi évoluer les mentalités. Une des actions qu'on a engagées et qui m'a beaucoup marquée, c'est la création d'un centre de réinsertion pour les femmes battues. Donc, il faut juste savoir qu'il y a aussi des choses odieuses qui se passent. Comme par exemple, une femme violée va être rejetée de la communauté. Donc, on ne va pas mettre le blâme sur la personne qui a violé, pour autant qu'on connaisse l'identité, mais c'est sur la femme.
Victime, ouais.
Et c'est son enfant aussi qui va être rejeté de la communauté. Donc, ces femmes doivent partir à un moment donné parce qu'elles ont trop de pression. Et donc, du coup, ce centre permet d'accueillir ces femmes qui ont été rejetées de leur communauté, de leur offrir un hébergement et bien évidemment de les nourrir. Et puis de les former, en fait, pour qu'elles puissent ensuite avoir un métier et avoir une autonomie financière. Donc, il y a vraiment des gens extraordinaires qui s'investissent pour les autres et qui permettent des réalisations incroyables, comme cette femme qui a mis en place ce centre. Nous, on l'a modestement soutenue en organisant des actions de solidarité pour qu'elle puisse avoir des fonds et en l'intégrant aussi dans certaines de nos actions.
Pascal, pour finir cette émission, parce qu'on pourrait parler pendant des heures encore, il y a plein de questions. Peut-être pour nos auditeurs qui aimeraient justement peut-être aller plus loin ou découvrir un peu plus, est-ce qu'il y a un site internet
ou... Oui.
Ouais. Je vous laisse peut-être donner des coordonnées pour qu'on puisse découvrir ça.
Oui, bien sûr. Donc, nous avons un site internet qui s'appelle aiodd.org pour Alliance Internationale pour les Objectifs de Développement Durable. Il y a un téléphone, on peut me contacter au 06 73 96 04 03. Et puis, il y a donc une adresse mail aiodd2030@gmail.com. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui veulent effectivement nous accompagner et renforcer nos équipes.
Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Pascal, parce que c'était très très intéressant de découvrir toutes ces actions, cette alliance. Il y a encore plein de choses, j'imagine qu'on pourrait encore faire une deuxième émission. Et ben, merci.
Un grand merci à tous et puis un merci tout particulier à Bérangère et à Radio Alto.
Merci.
Les racines du futur. Une émission pour écouter les Vosges.